Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super, je suis au top. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est la leçon. Et je suis trop contente parce que ça vient un moment que j'en avais pas fait. Bref, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi sur la leçon Camille. Camille qui est la fondatrice de Maison Palpite. Qu'est-ce à quoi que Maison Palpite? Eh bien, c'est une très jolie marque, nouvellement créée, parce que si je ne me trompe pas, Camille l'a créée début février 2022, qui a pour vocation de créer des objets nomades pour les petits. Pour les petits et les grands, en réalité, puisque c'est quand même les grands qui s'occupent de les donner aux petits. Bref, ce sont plein d'objets du quotidien pour le confort de toutes les escapades avec votre bébé. Camille et son associée Adeline ont lancé donc il y a peu de temps Maison Palpite et se posent évidemment plein de questions. Et notamment la question qu'elle me pose aujourd'hui, comment créer le besoin ou convaincre de notre solution lorsque celle-ci n'est pas vraiment vécue comme un manque. Parce qu'en fait, Camille s'est rendu compte, après avoir lancé sa marque, que bah, finalement les objets nomades, c'est-à-dire les objets du quotidien pour un bébé quand on part en vadrouille avec son enfant en escapade, eh bien ne sont pas forcément vraiment nécessaires. On peut s'en passer, on peut avoir recours à un système D. Et du coup, les parents se débrouillent comme ils peuvent sans avoir besoin d'acheter ces produits. En tout cas, c'est son ressenti. Et donc, elle me pose la question de comment changer cela et comment réussir à communiquer sur la nécessité d'acheter ces produits. Je trouve que cette leçon a été très intéressante et c'est une question en fait que je n'avais jamais abordée dans une des leçons. Donc, j'espère de tout cœur qu'elle vous plaira comme elle m'a plu à moi. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon. Salut Camille.
Bonjour Pauline.
Ravie de t'accueillir sur cette leçon. Camille, est-ce que tu peux commencer, s'il te plaît, par la grande tradition des leçons, c'est-à-dire te présenter et puis ensuite me dire évidemment ce qui t'amène ici aujourd'hui avec moi.
Avec plaisir. Alors, je suis Camille et avec mon associée Adeline, on a créé la marque Palpite. C'est une marque de petits objets nomades pour se déplacer et voyager léger avec un bébé tout en confort. Donc, l'idée, c'est vraiment d'alléger à la fois les contraintes matérielles d'espace et alléger les contraintes un peu plus psychologiques d'organisation que ça requiert et de temps que ça demande. Donc, on a commencé à travailler sur ce projet il y a un an et on a lancé vraiment le site le 1er février. Donc, ça fait à peine 20 jours. Donc, c'est tout récent. Et donc voilà, donc l'idée là depuis le lancement, c'est de se faire connaître à un cercle un peu plus large que notre cercle proche. Donc on a activé un peu une stratégie d'influence, des campagnes de Google Ads, des posts sponsorisés sur les réseaux. On tâtonne, je t'avoue un petit peu encore parce qu'on sait pas trop ce qui marche, ce qui marche pas. Donc on apprend au jour le jour. Et ce qui m'amène aujourd'hui à te contacter, c'est une question qui nous trotte en tête, qui est comment créer le besoin lorsque celui-ci n'est pas vécu comme un manque. Je m'explique pour que ça soit clair pour tout le monde. En fait, aujourd'hui, notre constat est que les parents trouvent toujours une solution pour se déplacer avec un bébé, c'est-à-dire que quand ils sont chez des amis qui sont pas forcément bien équipés, ils vont mettre des coussins pour organiser un lit d'appoint ou alors ils vont garder le bébé dans les bras toute la soirée. Au pire, ils refusent les invitations, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas une marque qui s'est positionnée vraiment sur les objets nomades qui facilitent les déplacements. Nous, on arrive toute nouvelle avec cette proposition-là. Le truc, c'est que on se rend compte que ce besoin n'est pas vécu comme un manque. En tout cas, c'est pas une souffrance puisque les gens font autrement. Donc, comment arriver à créer le désir, en fait, autour de ce besoin-là qui n'est pas un manque?
Eh bien, écoute, c'est une excellente question, Camille. Et là où je veux déjà commencer, c'est par te rassurer. Parce que Dieu merci, pour moi notamment, le luxe n'est pas non plus un besoin vital. Il y a énormément d'entreprises, toutes les maisons de luxe notamment, mais pas que, qui ne répondent pas à des besoins réels, mais qui répondent à des envies, à des désirs. Et du coup, je pense que dans ton cas, ce qui va être hyper intéressant, c'est peut-être moins d'insister sur le côté nécessaire de ces outils, de ces objets, puisque finalement, d'après ce que je comprends, c'est un objet de confort avant toute chose, mais ils ne sont pas forcément essentiels, mais peut-être plus d'insister sur la désirabilité. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que souvent, quand on crée sa boîte, effectivement, on pense au manque, on pense à la souffrance du client. Mais il y a quelques cas dans lesquels, il n'y a pas de souffrance. Et tout le luxe est basé sur le fait que, bah voilà, on crée des produits, mais qui ne sont pas basés sur une souffrance. Une fois de plus, personne n'a besoin d'un sac Louis Vuitton, ou d'une paire de chausses Dior, ou même d'une jolie bague Gémio, à mon grand dame. Mais c'est pas grave, on peut quand même réussir à faire comprendre que ces objets ont beaucoup de valeur, parce que c'est le cas, pas uniquement financière, mais en fait, une valeur émotionnelle, en particulier. Et je pense que toi, dans ton cas, c'est aussi probablement ce vers quoi il faut que tu t'orientes. Parce que probablement, effectivement, si jamais on est uniquement, tu vois, dans le côté rationnel, factuel, de se dire ok, ben en fait, faut juste que je réponde à mon besoin qui est ça. Bon, ben les parents, ils se débrouillent. Est-ce qu'ils vont dépenser de l'argent alors qu'en fait, ils peuvent avec, tu vois, finalement, un système D pas trop compliqué, répondre à leurs problèmes? Peut-être pas. Mais par contre, si jamais tu arrives à trouver des bénéfices émotionnels, de soins de l'enfant, de confort de l'enfant, à toi aussi d'y réfléchir, mais je pense que tu pourras avoir une communication qui est beaucoup plus intéressante et puissante envers ton persona principal, donc en fait les parents, parce que bah du coup tu vas les toucher beaucoup plus au cœur. Alors que là, si t'essayes juste de leur prouver qu'ils en ont besoin, mais qu'en fait ils savent bien que c'est pas le cas, bah si tu veux, c'est un peu un panier percé, quoi. Je veux dire, ça fonctionnera pas. Donc en fait, d'une certaine manière, ce que je suis en train de te dire, c'est que je pense qu'il faut que t'assumes le fait que, et c'est ce que toi qui me le dis, hein, moi j'en sais rien, mais ton produit n'est pas un produit de besoin, c'est un produit de désir. Et ça, c'est très important, parce que ça veut dire que toute ta stratégie marketing, ta stratégie de marque, va devoir être orientée sur le désir, sur le fait de susciter le désir auprès des parents, qu'ils en aient envie, que ça les démange, mais un peu comme quand on voit, un beau sac, ou quand on voit un plat succulent dans un restaurant et qu'on se dit, j'ai envie de me faire plaisir. Je pense que cette notion de plaisir, de désir, la notion d'émotion, tu vois, elle va être assez clé finalement dans ta communication. Et donc probablement, il faut que tu brainstormes avec ton associé Adeline sur ce sujet, mais que vous essayez vraiment de mettre des mots sur qu'est-ce qui va être le driver principal de ton client. Parce que souvent, quand on est client, en fait, il y a deux raisons pour lesquelles on achète quelque chose. Soit, une fois de plus, on a une souffrance et donc en fait, l'achat nous permet de réduire au maximum la souffrance. Soit, on a un désir et l'achat permet d'augmenter le maximum le désir. Alors, le jackpot, c'est quand t'as les deux, mais ça, c'est assez rare. Et donc, toi, t'es plutôt dans le cas de « il va falloir que t'augmentes le désir à mort ». Je sais pas si ça te parle, ce que je te raconte, ou si c'est un peu
flou. Ouais, tout à fait. Mais alors, ça, du coup, c'est dans le contenu qu'on divulgue. Est-ce que tu as des outils qu'on peut utiliser, enfin une façon, en fait, concrètement, parce que je comprends qu'il y a une partie vraiment réflexion et stratégie. Et de ça va en découler forcément des outils à mettre en place. Est-ce que tu as déjà, toi, en tête des choses qu'on peut utiliser concrètement?
Ouais. Alors déjà, l'outil principal, une fois de plus, hein, c'est stratégique, mais c'est la base sur laquelle je pense qu'il faut que tu construises ensuite ta marque. Et moi, je commencerai par ça. Ça peut paraître pipeau, mais en fait, je te garantis à 100% que ça ne l'est pas. J'ai cette expérience sur littéralement des centaines et des centaines de personnes. Il faut que vous ayez une plateforme de marque. Donc, c'est-à-dire cette ADN de communication, les quelques mots qui décrivent Palpite, qui décrivent ce que vous faites, qui expliquent au travers de votre charte graphique comment vous avez communiqué. Donc, si tu veux vraiment le playbook, quoi, le manuel d'utilisation de Palpite, c'est qui Palpite, comment tu le décris, mais du coup en s'axant plutôt sur cette notion de désirabilité. Ça, si tu veux, c'est un peu ta petite bible et sur laquelle ensuite tu vas pouvoir tout construire, parce que tu vas pouvoir construire tes images. Tu vas pouvoir construire tous tes textes, tu vas pouvoir construire tes pubs sur Facebook, sur Google, les contenus que tu fais sur les réseaux sociaux. Ce que je veux dire, c'est que avant de commencer à te poser la question de la diffusion, je pense qu'il faut que tu travailles peut-être un petit peu plus. Une fois de plus, ça fait que 20 jours que l'entreprise existe. Mais si tu me dis que tu as senti, en fait, presque un pivot à faire, que tu pensais qu'il y avait un besoin fort, une souffrance, et qu'en fait tu constates que c'est plus que tu vas avoir besoin de créer le désir, eh bien dans ce cas, avant même de commencer à dépenser de l'argent d'une certaine manière sur de la diffusion, je commencerais déjà par assainir ma base en me disant bah non, en fait du coup il faut que ça peut commencer par les textes, ça c'est assez facile, plus facile à faire que sur des photos, tu vois. Déjà mettre en place ce système et cette communication sur la désirabilité. Ça passera par tes réseaux sociaux, etc. Et une fois que t'as fait ça, t'es pas obligé d'avoir fini si tu as avant de commencer à diffuser. Là, tu vas pouvoir commencer ensuite à aller targeter tes clients avec ce discours de vente qui sera du coup plus efficace. Donc, comment targeter tes clients j'ai envie de te dire, j'ai fait une formation entière sur ce sujet. Malheureusement, je vais pas pouvoir te le résumer en 20 minutes parce qu'elle fait plutôt 3 heures la formation. Mais globalement, il faut que tu comprennes vraiment bien qui est ton client et que tu ailles essayer de le toucher sur les niches où il va être. Donc, des parents nomades, peut-être que ça peut être, je sais pas, sur des groupes d'expats. Tu peux trouver... des newsletters d'expats, des podcasts d'expats, des influenceurs sur le monde des expats. Je dis n'importe quoi, hein, j'en sais rien. Je dis expat, peut-être que c'est une mauvaise idée une fois de plus, mais voilà, ça peut peut-être être intéressant. Et du coup, quand tu auras fait ça, tu les as trouvés. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, tu auras un discours de vente d'une certaine manière qui sera beaucoup plus précis et percutant parce que tu vas beaucoup plus insister sur le rêve et ils vont se rendre compte que pour passer de merveilleuses vacances avec leur petite Julie ou leur petit Jules de 2 ans, 3 ans, il faut qu'ils choisissent ce nouveau produit palpite et qu'ils en aient envie, si tu veux. Une fois de plus, que ça soit pas un problème, mais que ça soit plus une envie.
Ouais, c'est super intéressant ce que tu me dis parce qu'effectivement, on est tous les deux du marketing, donc on a travaillé sur la plateforme de marque, mais effectivement, je pense avec beaucoup plus le côté besoin que le côté désir en tête. Et ça se ressent, enfin en t'écoutant en fait ça me vient en tête, ça se ressent aussi sur notre shooting photo qu'on a fait où effectivement on essaie de montrer la fonctionnalité de nos produits beaucoup plus que sur l'aspect aspirationnel et rêveur en fait. Donc c'est des super conseils que tu me donnes là et qui font vraiment écho à notre actualité. Donc c'est trop top.
Bah écoute, je suis ravie si je peux t'aider, mais c'est vrai que c'est intéressant que tu aies posé cette question parce que en fait je me rends compte que j'avais jamais parlé de ça sur une leçon et que très souvent quand on lance sa boîte, on la lance parce que soi-même on a eu un problème et c'est peut-être pour ça que vous avez eu cette idée avec Adeline sur Palpite. Et donc tu vois naturellement en fait on part un peu bien en tête en se disant on a eu un problème. Moi d'ailleurs quand j'ai lancé Gémio c'était la même histoire. J'ai pas trouvé de bague de fiançailles, pas parce qu'il y avait pas de bague de fiançailles, il y en a des magnifiques, mais j'avais trouvé que l'expérience était intimidante et donc d'une certaine manière j'ai répondu à un problème. Et effectivement quand on a lancé Gémio, j'ai beaucoup axé d'ailleurs la communication au début sur le fait qu'on allait être une entreprise beaucoup plus chaleureuse, une marque beaucoup plus chaleureuse et donc que ça serait plus facile de rentrer dans nos boutiques, etc. Et ça fonctionnait partiellement, mais en fait c'était partiel parce que si jamais t'enlèves le rêve, le désir, alors que c'est ça l'élément fondateur qui fait qu'on achète un bijou, tu vois, les gens n'achètent pas un bijou juste parce que parce qu'en fait ils sont bien traités dans une boutique, ils l'achètent avant tout parce que le bijou est beau. Toi, c'est la même chose en fait. Il faut pas se tromper de combat et il faut que tu t'en reviennes aux bases de c'est quoi finalement ce qui va faire vibrer tes clients par rapport à ton offre et à ton produit. Et si c'est plus l'émotion dans les yeux de leurs enfants, des images peut-être où on les voit dehors en fait en train d'être dans des très beaux paysages et on voit une famille unie heureuse en déplacement, mais tu vois j'imagine des scènes hyper magnifiques dans des très beaux paysages. Peut-être que si jamais tu me dis effectivement qu'il y a pas de besoin réel, de souffrance réelle, peut-être que ça fonctionnera plus et que ça touchera plus au cœur tes clients plutôt que de l'orienter sur un côté un peu plus fonctionnel, quoi. Après, j'ai pas envie qu'ils en fassent tout de suite parce que j'imagine que c'est normalement travail si vous venez de faire un shoot photo, mais je pense que déjà sur des textes, déjà sur la manière dont vous amenez, tu vois, vos produits, dont vous parlez de la marque, il y a beaucoup de choses que tu pourrais certainement modifier. Et puis aussi dans les personnes que tu vas démarcher aussi, il y a aucune raison en fait que ton point d'approche, si tu veux, soit pas plus sur le désir que sur la fonctionnalité.
Ouais, complètement. Non, mais c'est hyper parlant. Et en plus, je trouve qu'on est dans un secteur où... alors, cette question, je te l'ai posée, je pense que beaucoup de marques se la posent. Et dans notre secteur, il y a quand même des marques qui arrivent dans l'enfance et des marques qui arrivent à justement créer ce désir alors que leurs produits ne sont pas plus innovants que d'autres. Et j'ai quelques marques en tête, moi, qui m'impressionnent de... Alors, je sais pas si je peux les citer là, mais...
Bah, tu peux, bien sûr.
Je pense spécialement à Tajine Banane où le produit... Alors, il est innovant, mais en fait, il existait... déjà avant, en fait, ce qu'elle a fait de très fort, c'est qu'elle a créé du désir, effectivement, autour d'un sujet. Je sais pas si tu connais, sûrement.
Je connais de nom, assez vaguement, je t'avoue, mais on en a déjà parlé.
C'est des t-shirts d'allaitement, du coup, ils sont super pratiques, mais c'est vrai le principe, le concept existait déjà, mais il y a vraiment tout un désir autour de cette marque qui est incroyable. Enfin, moi, j'admire tout le travail qui est fait autour de cette marque et effectivement cette question-là quand elle nous est venue en tête et quand je te l'ai posée, je me dis elle concerne beaucoup de beaucoup d'autres marques qui arrivent à la dépasser. Et effectivement, je pense que le désir, comme tu le dis, est sûrement la, la clé. Et je pense que c'est une clé qu'on n'avait pas. Donc, merci beaucoup.
Bah, tu sais ce à quoi je pense en t'écoutant parler. Je vais te dire quelque chose. J'espère que tu vas pas être choquée. Je pense que t'es un peu trop intelligente pour ton bien avec Adeline et que vous avez un peu trop bien bossé votre marketing. Et que finalement, je dis pas que la fondatrice de Tajine Banane n'est pas intelligente, mais j'imagine qu'en fait, elle a juste fait quelque chose qui lui plaisait énormément à elle, où elle a mis, tu vois, ses tripes, mais sans trop réfléchir probablement, tu vois, à ce qui allait plaire. Et donc, elle y a, c'est pas qu'elle y a mis moins d'intelligence, mais elle y a mis plus d'émotion. Et je pense que vous, vous avez certainement beaucoup d'émotions et c'est pour ça que vous avez vécu la création de cette entreprise. Mais parfois en fait, je me suis un peu reconnue en toi. C'est pour ça que je me permets de te dire ça. C'est que moi, les plus pires erreurs que j'ai pu faire dans la création de mon entreprise, c'est quand j'essayais d'être un peu trop intelligente et pas assez simple en fait finalement dans mon approche. Et que au final, tu vois, j'avais essayé de faire des plans marketing compliqués, des plateformes de marque compliquées, etc. Alors que non, la simplicité est reine. Et qu'en fait, si jamais t'as une marque qui est juste attirante, qui donne envie, qui est désirable, bah naturellement, ça sera beaucoup plus porteur que si c'est juste quelque chose de fonctionnel, tu vois. Ou en tout cas, t'arriveras à vendre tes produits plus chers, ce qui sera en plus un bénéfice supplémentaire.
Ouais. Non, et c'est drôle parce que justement, ces derniers jours avec Adeline, on discutait, on essayait de trouver, parce que je pense que tu as complètement raison, tu touches dans le mille un vrai sujet qui est qu'on a bossé pendant presque un an sur cette marque, notamment sur la partie visuelle, graphique, le ton de voix, enfin sur cette plateforme de, qu'on a tellement défini qu'au final aujourd'hui on s'est posé la question cette semaine, est-ce qu'on n'a pas perdu un peu de spontanéité? Est-ce qu'il y a des fois où on mériterait pas en fait de les textes les créer presque sur le moment sans les avoir prévus des semaines à l'avance? Donc c'est un vrai sujet. Je pense que le fait de parler avec toi aujourd'hui va remettre le sujet sur le tapis.
Surtout, ce qui est drôle, le paradoxe, c'est que vous êtes en train de créer quand même des petits objets nomades de confort du quotidien. Donc, par essence, des objets qui sont censés être adaptables, flexibles, un peu pour les aléas de la vie, quoi.
Complètement. Mais ouais, je pense que c'est notre côté. Alors, je vais pas parler pour Adeline parce qu'elle est beaucoup moins comme ça que moi, mais peut-être un peu control freak qui fait que ça me rassure peut-être un peu d'avoir tout planifié. Et en fait, je pense que le côté peut-être plus spontané et plus vrai, en fait, plus émotionnel que planifié et peut-être plus...
Surtout, ce que je peux te dire, Camille, c'est que si tu arrives à terme, ça sera un petit peu de travail personnel, mais je suis sûre que tu peux y arriver, puisque je te dis, moi, j'étais un peu dans ton cas aussi. Je dirais pas que je suis contrôle fric, mais je voulais tellement que ça marche, je voulais tellement réussir que, tu vois, j'ai essayé de m'en donner les moyens, mais du coup, j'ai perdu à un moment donné, je pense, en sincérité. Enfin, c'était surtout au début de Gémio, où en fait, j'essayais presque de cocher les cages, si tu veux, quoi, plus que de faire quelque chose qui me plaisait vraiment. Et c'est quand, en fait, j'ai réussi à allier, et je dis je, mais c'est évidemment moi et toute l'entreprise, hein, quand on a réussi à être plus aligné avec nous-mêmes, c'est-à-dire à la fois être hyper sincère, plus spontané, accepter, en fait, de montrer parfois quand on réussissait pas quelque chose, etc., mais qu'on a gardé le côté positif, quand même, du fait qu'on était des gens assez bons en exécution. Il n'y a pas de faute d'orthographe, les photos sont jolies, enfin tu vois. Donc si tu arrives à finalement associer tes deux forces, c'est-à-dire le côté, comme tu dis, contrôle fric, mais que je vois plutôt comme une qualité de leadership, d'organisation, et en même temps que tu y ajoutes, ou en tout cas que tu retrouves plutôt ta spontanéité et ton authenticité, franchement, c'est les plus belles success stories. Parce que quelqu'un qui est uniquement dans l'authenticité, mais qui n'arrive pas à être organisé, au bout d'un moment, ça démarre, ça part très vite, mais ça finit par s'essouffler un peu comme un feu de paille, parce que derrière, la gestion n'est pas bonne. Et à l'inverse, quelqu'un qui fait que de la bonne gestion, il n'arrive pas à avoir le feu sacré, et il n'arrive pas à créer le désir, tu vois. Donc c'est vraiment cet équilibre que j'ai en tout cas constaté dans la création de marque, qui fait qu'on arrive à créer de très très belles entreprises, et c'est évidemment tout le mal que je te souhaite.
Merci beaucoup. Je nous le souhaite aussi.
Écoute, en tout cas, merci beaucoup pour ta question qui était très intéressante. Juste petite piqûre de rappel pour les personnes qui nous écoutent, parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup de mamans nomades et de papas nomades. Où est-ce qu'on retrouve votre site internet et vos produits?
Alors, du coup, on a un site qui est www.palpite.co, okay. C-O à la fin. Et notre Instagram, c'est palpite_kids. Donc voilà, super. N'hésitez pas à venir nous suivre.
Eh ben, n'hésitez pas à aller suivre Palpite si vous aimez, évidemment les objets nomades, mais en fait, tout simplement, si vous êtes intéressé par le monde de l'enfance et de la maternité, je suis sûre qu'il y a très bon contenu. En tout cas, ça sera dûment relayé de mon côté. Et puis, je te remercie d'avoir accepté
Merci
de passer ce moment avec moi.
Merci beaucoup, Pauline, pour ton temps. À très
à bientôt.
Au revoir.
Et voilà, terminé pour aujourd'hui. Un grand, grand merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que le format vous a plu. Si oui, dites-le moi avec 5 étoiles ou même un petit commentaire sur l'application iTunes. Et puis si iTunes, c'est pas votre truc, si Apple, vous avez pas envie d'en entendre parler, c'est pas grave, vous inquiétez pas, il y a d'autres moyens de m'aider. Vous pouvez tout simplement en parler autour de vous. Prenez 2-3 amis et puis diffusez-leur le podcast. Moi, ça m'aide énormément et qui sait, ça les aidera aussi, peut-être. Quoi qu'il en soit, merci pour votre temps. N'hésitez pas à postuler aussi à la leçon du gratin si l'idée de passer sur le podcast vous intéresse. Donc à vous de jouer et bientôt pour une nouvelle leçon du gratin.